Élie, je vous dis ça pour que vous ne soyez pas trop surpris que je parle d'un homme comme ça, qui est mal connu pour sa grande foi, la profondeur de son élan spirituel. Il est né à Montréal, pour être plus précis, à Pointe-Saint-Charles, le 5 avril 1915. C'est à Pointe-Saint-Charles que j'avais retrouvé la famille de mon fils adoptif qui ne connaissait pas ses parents. Ça me rappelle de grands souvenirs. Et il a étudié dans son enfance à l'école Saint-Léon de Westmount, où j'ai fait faire à mon fils attardé d'ailleurs des études. Il avait fait sa deuxième et troisième année primaire à un âge avancé. Il a fait ses études classiques au collège Sainte-Marie, malheureusement détruit. Des éléments français à la philo 2. Il a donc fait tout son cours classique là, de 1926 à 35. Et il a rencontré Saint-Denis Garneau, le fameux poète. Ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en 1934, il a collaboré dès le départ à cette revue qui nous a beaucoup marqué dans notre jeunesse, La Relève. Moi, mes frères plus âgés lisaient ça, nous étions abonnés à la maison. Je me souviens de l'avoir feuilleté, je ne comprenais pas tout, mais plus tard, avec la nouvelle Relève, un retour de cette revue, dans les années 40, j'ai pu lire un peu. Alors, ce sera l'occasion pour Robert Élie d'amitié très, très précieuse à la Relève, Saint-Denis Garneau, dont je viens de vous parler, mais aussi Jean Lemoine, qui est un de nos penseurs les plus lumineux, Claude Urtubise, les éditions Urtubise HMH, c'est un homme d'une très grande qualité que Claude Urtubise, et aussi Robert Charbonneau. C'est lui qui m'avait employé le premier à Radio-Canada quand je suis entré comme chef des comités de lecture au service des textes. Robert Charbonneau, un de nos bons écrivains, des grands écrivains, et aussi Paul Beaulieu, qui a écrit à l'édition des œuvres complètes de Robert Élie chez Urtubise, un énorme bouquin, c'est presque un dictionnaire, ça a presque 900 pages. Et c'est lui qui a écrit, Claude Beaulieu, une introduction magnifique, mais magnifique, je vous assure. Quelle qualité dans l'écriture, quelle splendeur, hein? C'est intitulé « Redécouvrir » avec un trait d'union, Robert Élie. Il écrit à un moment donné, à l'écoute de toute manifestation de la créativité de l'homme, loin de devenir un écrivain académique, Robert Élie prit place auprès de ces humanistes imbus d'un christianisme vivant. Et c'est ça qu'est Robert Élie, c'est un humaniste imbu d'un christianisme vivant qui ont foi en la destinée de l'homme. Et Claude et M. Beaulieu ajoutent, en termes non équivoques, Robert Élie a lui-même précisé les impératifs de la littérature, et c'est très bien. L'honneur de la littérature, dit Robert Élie, c'est de nous engager dans une aventure spirituelle qui comporte tous les risques de la liberté et de la foi. Il y aura toujours des hommes pour se lancer dans l'inconnu, folie sans doute, mais contre laquelle viendront se briser les tyrannies. Ces risques de la liberté et de la foi, bien Robert Élie, dit M. Beaulieu, les assume en entier. Pour lui, la littérature n'est pas un jeu gratuit, ne se limite pas à la seule perfection formelle. En somme, il n'est pas en faveur de la littérature pour la littérature, purement et simplement. Bien qu'il ne l'ait certainement pas rejeté dans certains poèmes de soit de Valéry, de Mallarmé, etc. Mais elle est un moyen, dit-il, de se définir soi-même et d'épuiser au maximum ses possibilités. Aussi, l'œuvre de Robert Élie, son œuvre romanesque, son œuvre théâtrale, son œuvre poétique, ainsi que toutes sortes de chroniques qu'il a écrites sur les hommes et les valeurs qui les font vivre, sont des exercices d'évasion, des exercices d'édification même d'un monde irréel, mais surtout des actes de présence et de confrontation avec la réalité très très dure qui remet en question toutes les options qui sont vitales, essentielles pour l'homme. C'est l'œuvre de Robert Élie est une œuvre, à mon sens, une des plus importantes, mais aussi les plus ignorés. que nous ayons eu au Québec. De 1935 à 36, 20 ans, 21 ans, quoi. Robert Ely a fait des études à la Faculté des lettres de l'Université de Montréal, mais on dit que l'ennui l'a obligé à abandonner ses études, oui, l'ennui. Pas drôle de suivre des cours ennuyants. J'en ai suivi à l'Université de Montréal. Il y a des fois, on se demande si le cours va se terminer avant qu'on en crève tellement c'est plat parfois, mais d'autres sont tellement intéressants. En 1937-38, encore tout jeune, il rencontre Bourdieu, que j'ai connu moi-même, que j'ai bien connu. Il fréquentait mon frère aîné et je l'ai connu aussi à d'autres occasions en allant passer même des nuits complètes dans son antre à la place Christin. Et c'était des nuits bien particulières où on discutait de toutes sortes de choses avec des gens plus ou moins étranges parfois, mais je me préparais, moi, à entrer au monastère c'était bien spécial. Donc, il a rencontré Bourdieu et il a été l'un des premiers à l'apprécier. Il l'appréciait grandement. De 39 à 40, à l'Université McGill, c'est une année d'études en littérature anglaise, en histoire générale. Et puis, les deux années suivantes, 40 à 42, il est reporter au journal Le Canada. Il est responsable de la page des spectacles. On le voit comment il se dirige vers le monde artistique de plus en plus. Il est également chargé de nombreux travaux de traduction. Et de 42 à 43, il est reporter à la presse. Fait des interviews, des nouvelles de l'université, puis aussi des nouvelles de l'archevêché, des critiques d'art. Voilà, ça se dessine. Et en 1943, il publie ce livre que je m'étais acheté justement en 1943. C'est pas vraiment un livre, c'est presque une plaquette. Vous comprenez, son texte est très court. Ça n'a que, mon Dieu, ça même pas 20 pages. Mais quelle densité, quelle splendeur avec une belle photo de Bourdieu. Et à la fin, des illustrations en noir et blanc d'œuvres que l'on connaissait à ce moment-là, c'est-à-dire surtout ces gouaches qu'il avait exposées sur le chemin de la Côte des Neiges à l'Ermitage. Je me souviens de cette exposition. Ça avait fait sensation. Et la même année, en 43, meurt son grand ami Saint-Denis Garneau. Il s'occupera beaucoup des œuvres de Saint-Denis Garneau avec Jean Lemoyne. Enfin, Robert Ely, ce catholique convaincu, entre à Radio-Canada comme journaliste au service des nouvelles. Et à partir de cette date et jusqu'en 1968, c'est donc très long, pendant 25 ans, il collabore aux principales revues littéraires et artistiques. Il est donc dans le monde de la culture au Québec. Un chrétien qui ne renie pas le monde et sa présence dans le monde de l'intelligence et de la réflexion. En 1944, il crée la revue de l'actualité à Radio-Canada. On se souvient, certains d'entre nous. Le 22 avril de cette année, il épouse Marie-Marthe Huot. Ils ont 4 enfants. Et en 1945, c'est la rédaction d'un premier roman, Les Naufragés, qui demeure inédit. Je pensais qu'il n'en était pas satisfait, mais non, j'ai entendu une interview de lui sur Bobine, que j'ai chez moi. Et il dit que ça n'a pas été publié simplement parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur. Il expliquait ça dans des entrevues. J'ai écouté des entrevues de lui en 1950 à la revue des événements de l'année et puis à Radio-Canada. En 1960, il avait fait aussi un Carrefour, la fameuse émission Carrefour. C'est une entrevue sur Bourdieu. Quelle entrevue du tonnerre, quelle entrevue lucide. Il s'exprime avec une grande facilité, une lucidité, une sorte de grâce exceptionnelle qui l'habite. Un tel génie tranche sur presque tout le monde, tant son intelligence est lumineuse et sa modestie en même temps, sa simplicité. Il y a chez lui une grâce qui est rare, très rare dans le monde de la culture, où on essaie un peu de s'épater les uns les autres, mais pas lui. Alors, il quitte Radio-Canada en 1947 pour se consacrer à la publication de la revue qu'on appelle ABC, c'est-à-dire Architecture, Bâtiment et Construction. Voyez-vous, il est toujours dans le monde de l'art, la construction, puis il a écrit d'ailleurs des choses très, très, très intéressantes à ce sujet. En 1948, il est élu président de la Société d'art contemporain. Il retourne à Radio-Canada comme directeur adjoint des services de presse et d'information pour la province de Québec, puis il va en être le directeur pendant 5 ans, de 1953 à 1958. C'est dire que voilà un homme, un chrétien, qui a les pieds à terre, qui sait vraiment vivre. Et en 49, en collaboration avec Jean Lemoine, quel homme Jean Lemoine que j'ai rencontré, que j'ai déjà interviewé aussi, il assure la publication des poésies complètes de Saint-Nigarneau dans la collection du Nénuphar chez Fidès. C'était les Pères de Sainte-Croix qui publiaient ça. Quelle belle collection que la collection du Nénuphar. Il a écrit l'introduction. Et je vous rappelle que Saint-Nigarneau était mort le 24 octobre 1943. En 50, Robert Ely publie un roman, La fin des songes, chez Beauchemin. Il reçoit le prix David, qui était un prix très, très, très recherché à l'époque. Oh mon Dieu, ça consacrait un écrivain. Je vous fais grâce de différents détails. Et nous arrivons l'année suivante. Il collabore à Cité Libre, qui commence, n'est-ce pas? Il collabore en 51-52. Cité Libre venait de commencer un ou deux ans plus tôt. Hein. Ça me semble que c'est en 49-50 que ça a commencé. C'est une revue qui faisait choc à l'époque, Cité Libre. Et en 1952, il écrit sa première pièce, L'étrangère, qui est une pièce importante dans son expression. Et 54, on le voit en collaboration avec Jean Lemoine, il assume la publication donc du journal, cette fois-ci, de Saint-Nigarneau, chez Beauchemin, à Montréal, puis il signe l'avertissement conjoint avec Jean Lemoine. Puis il y a la publication de sa première pièce, L'étrangère, qu'il avait écrite deux ans plus tôt. Elle est publiée dans Les Écrits du Canada français, dans le volume 1, dont j'ai la collection chez moi. C'est intéressant. D'ailleurs, la pièce est reproduite dans Les œuvres complètes, donc que je vous ai mentionné tout à l'heure, puis parue chez Urtubise HMH. Gros bouquin. Remarquable. Et alors, je vous fais grâce de bien des détails. Disons qu'il a été élu à la Société royale du Canada en 1955. J'aimerais vous lire justement un texte de 1955, mais il est trop long. C'est beaucoup trop long. Je ne vous en lis que de brefs extraits. C'est un texte intitulé « La vie est sacrée ». C'était alors d'un colloque sur le sacré et le profane qui s'était tenu à Québec au Centre catholique des intellectuels canadiens. Oh mon Dieu, on a plus ça, hein? Centre catholique des intellectuels canadiens, en 1955. Je vous lis de brefs passages. Il dit, en parlant de la peinture de Giotto, le trait de Giotto nous dit clairement que Dieu est infiniment au-delà de l'homme, qui ne saurait le rejoindre sans se dépasser. C'est vrai qu'on ne peut rejoindre Dieu que sans nous dépasser. Il faut se dépasser. Et ça se fait avec le Christ en nous, avec l'Eucharistie, la prière, l'oraison, le soin des pauvres, dont il a bien parlé dans un magnifique texte intitulé « Le Christ et l'ouvrier ». Robert Ely a écrit ça en 1937, tout jeune. Admirable texte. Robert Ely, dans ce texte sur la vie est sacrée, ajoute « Et Bach, que dit-il dans la Passion selon saint Matthieu, qu'il ne dit pas également dans l'art de la fugue, qu'il a pourtant conçu comme de simples exercices de virtuosité? Ce qu'il y a de plus dans la Passion, ce sont les paroles de l'Évangile, mais elles n'appartiennent pas à Bach. Elles n'ont dans son œuvre que la valeur de signe. Et la foi, mais non pas l'accompagnement musical, nous en livre le sens divin. Écoutez bien ça, c'est superbe. Et cet évangile même ne sera qu'un conte merveilleux pour un incroyant comme Gide qui l'a aimé. Mais sans obtenir de la grâce, la révélation d'une réalité que les mots humains ne peuvent exprimer, même si l'artiste est ici incomparable. Il avait cette grâce de saisir ce que c'était que la révélation, Robert Ely. Il ajoute plus loin, maintenu au niveau de l'humain, la prière reste à l'état de désir, de sentiment, tandis que tourné vers l'au-delà, l'art perd de sa vigueur, de son emprise sur le réel. Les disciples de Fra Angelico, jusqu'à Maurice Denis, qui était un grand artiste chrétien, donc les disciples de Fra Angelico, jusqu'à Maurice Denis, nous ont prouvé que l'artiste ne pouvait s'abandonner à un tel sentiment religieux sans grave dommage pour leur œuvre. Et il ajoute, c'est superbe, cela ne revient-il pas à dire, que la sainteté n'offre pas plus de garantie en art qu'en politique ou en science. Et là, il cite l'exemple de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, dont je vous avais déjà parlé. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, la plus grande sainte de notre temps, a écrit des poèmes insupportables, dit Robert Ellie, qui conduiraient à la piété la plus frelatée ceux qui ne se donneraient pas la peine de les traduire en bonne prose. Et c'est vrai que quand je lis ces poèmes que je trouve insupportables dans un sens, je les trouve très beaux parce que je les traduis à l'intérieur de moi-même dans leur sens profond. Comme Robert Ellie saisit bien les choses, hein, il ajoute, et à peu près au même moment, le troublant Rimbaud écrivait d'authentiques illuminations. Quelques-uns des poèmes les plus transparents de notre langue. Je vous en ai longuement parlé dans mon émission sur Rimbaud. Mais s'il n'y a pas d'art sacré, ajoute Robert Ellie, d'art sacré consacré, d'art qui soit une prière, l'Église devrait donc renoncer à la beauté. Mais pourquoi l'Église renoncerait-elle à la vie? N'est-ce pas l'homme qu'elle vient sauver? Et ne se propose-t-elle pas d'élever à la divinité cette vie humaine que l'art exprime totalement? Et il ajoute, dans l'Église, en présence du Christ, confronté au mystère de la révélation, l'homme n'a-t-il pas sa place? Et l'homme, dans sa royauté temporelle, qui aspire à une définitive confirmation à la victoire sur la mort. Et il ajoute ce magnifique cinq lignes, chrétien, n'espérons pas un art chrétien, des œuvres qui soient des prières, mais exigeons un art pleinement humain, profondément humain. Il suffira qu'il affirme loyalement dans l'Église la présence de l'homme pour que le croyant ressente le besoin de se tourner vers le Créateur. Mais s'il consent à la prière, il fermera tout naturellement les yeux, il oubliera toutes les images, et l'art sera dépassé. C'est vrai, hein? Quand on va dans une église et qu'on ferme tout à coup les yeux, après s'être laissé charmer par l'art et la beauté qui nous entoure, notre cœur s'élève vers le Créateur, vers Dieu. Et c'est ce que ressentait profondément Robert Ellie. Il terminait ce texte en disant, « Je vous ai dit que je ne croyais pas à l'art sacré, qu'aucun objet d'art en tant qu'objet d'art ne méritait d'être consacré comme un calice est consacré. Mais l'art, dans la beauté, dans la lumière de vérité, rejoint la vie. Et par là, ces objets renferment quelque chose de sacré pour le croyant. » C'est vrai. Hein? Il dit, il cite cette belle prière de la messe d'autrefois, « Ô Dieu qui avait merveilleusement créé la dignité de la nature humaine et qui l'avait réformée plus merveilleusement encore, accordez-nous par le mélange symbolique de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la dignité de celui qui a daigné revêtir notre humanité. » C'est au moment où le prêtre met un peu d'eau dans le calice. Et il ajoute, « Espérance folle et pourtant, compagne familière de l'artiste, cette nature humaine, plus merveilleusement réformée qu'elle n'a été créée, l'art vient l'introduire dans l'Église en offrande au Dieu qui daigne s'en revêtir. » Il croyait profondément à l'incarnation. Et je vous avais dit qu'il avait écrit un texte sur le Christ et l'ouvrier en 1937. Je vous en lis un tout petit passage. « Le Christ s'est fait humble. » Parce que l'humilité est la voie de la vérité et de la vie. C'est beau, ça. L'humilité est la voie de la vérité et de la vie. Et pour se faire humble, le Christ a choisi la condition ouvrière. Ben oui, il a choisi la condition ouvrière. Et Robert Ellie ajoute, si la vie de notre Seigneur n'est plus rien pour nous, passons. Mais si elle demeure tout, n'est-ce pas un commandement? Ces pensées doivent orienter tous les chrétiens dans la préparation d'une nouvelle chrétienté. Il s'agit de reconnaître l'imminente dignité de l'ouvrier. Quelle puissance, hein, chez cet homme. En 1957, le 19 mai, il y a une présentation de sa pièce étrangère au Service international de Radio-Canada et la publication d'un second roman. Il suffit d'un jour chez Beauchemin à Montréal. Là, il publie donc le roman. En 1958, il quitte Radio-Canada. Il assume à la demande des professeurs la direction de l'École des beaux-arts de Montréal. J'ai bien dit, à la demande des professeurs. car la culture, l'équilibre et l'intelligence de cet homme, on en a témoigné un jour dans Le Devoir du samedi 17 mars 1973, un article que j'avais conservé, signé par Jean-Charles Fauché, qui est un ex-professeur et ex-directeur des services d'aide aux élèves à l'école, l'ex-école des Beaux-Arts de Montréal. Il fait une apologie admirable de Robert Ely. C'est en 73, à peine quelques 2 mois après sa mort. Robert Ely est mort très jeune, 57 ans. Nous avons perdu là quelqu'un d'immense. Et Jean-Charles Fauché écrit, je vous cite des passages, « Selon toute apparence, bien peu de gens, même ses intimes, connaissent le rôle prépondérant que Robert Ely a joué à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Il nous appartient donc de le faire savoir. Il dit, la nomination de Robert Ely à ce poste n'est rien de politique, bien au contraire. Il fut choisi, comme je viens de vous le dire, appelé, désigné par le corps professoral, imposé, pour ainsi dire, au gouvernement, qui devant une telle unanimité ne put que sanctionner cette décision, cas assez rare, admettons-le, et qu'il faut souligner. Et il ajoute, grâce au rayonnement, au prestige, à la ferveur, et disons-le aussi, au charme de cet homme exceptionnel, l'École des Beaux-Arts allait connaître une nouvelle vie et prendre un essor comme jamais auparavant. Et il fait une description merveilleuse, il dit profondément humain, compréhensif, cultivé, raffiné, chaleureux, sensible à toute manifestation de la beauté et de l'intelligence, ouvert à toutes les expériences et les initiatives, mais toujours équilibré et réfléchi, Robert Ely a élargi les cadres un peu étroits de l'école et l'éventail des disciplines qu'on y enseignait. Il ajoute un peu plus loin qu'il faisait tout ce travail sans bruit, discrètement, aimablement, comme tout ce qu'il faisait. Et puis, rapidement, la réputation de l'École des Beaux-Arts avait franchi nos frontières au point que nombre de demandes d'inscription, dont plusieurs venaient de pays très éloignés, finit par dépasser les limites qu'à regret nous avions dû fixer, faute d'espace. Il fait des éloges magnifiques. Il dit à un moment donné qu'il fut heureux à l'École des Beaux-Arts et que les années que Robert Ely y a passées furent les plus belles de sa vie. C'est ce que Robert Ely disait. Et il ajoute, M. Fauché, il en fut de même pour nous. Nous avons obtenu de lui, comme lui et de nous, une collaboration merveilleuse. Il sut s'intégrer rapidement à notre milieu, pas toujours facile, en établissant dès le début de son directorat des contacts étroits et fréquents avec tous, professeurs, élèves et personnels, en toute simplicité et en toute amitié. Ce sont là des qualités exceptionnelles chez un être humain, et ça vient, à mon avis, en grande partie probablement de cette foi vécue. L'élan avait été donné et son successeur, continuateur et ami, quand il a démissionné, a été Edmond Labelle. C'est lui qui m'avait fait passer aux émissions religieuses, Edmond Labelle, que j'ai beaucoup aimé, pour qui nous avions également beaucoup d'estime poursuivi fidèlement l'œuvre entreprise. Et voilà pour un premier part du portrait de Robert Ely, mais je irai en profondeur dans ses plus beaux textes chrétiens dans quelques instants. Nous étions en 1958. Je vous ai dit qu'il avait pris la direction de l'École des Beaux-Arts de Montréal. Il avait écrit à la même année, « Les catholiques devraient profiter de l'occasion pour se livrer à l'exercice salutaire de l'examen de conscience et échapper ainsi à la suffisance qui guette toutes les majorités, à l'orgueil qui menace toutes les puissances. » C'était autrefois, 158, « Sommes-nous encore la majorité ?» Il dit plus loin, les catholiques pourraient encore se demander si l'apostolat leur tient vraiment à cœur, s'ils veulent être témoins du Christ dans le monde, être présents aux autres, qu'ils soient chrétiens ou non, attentifs à toute inquiétude, à toute souffrance. Il ajoute, ils pourraient encore se demander si leur attitude invite au dialogue loyal, ou si au contraire, elle ne suscite pas la haine, si elle ne justifie pas parfois le reproche de sectarisme ou de cléricalisme, si elle témoigne vraiment qu'ils sont plus attachés à la diffusion du message évangélique qu'au maintien d'un ordre établi, qui leur apporte la sécurité, les joies du pouvoir, les douceurs du confort et tous les raffinements de la bonne conscience quand on est assuré d'avoir raison au point qu'il devient inutile de s'interroger. Un prophète, en 59, tout en conservant son poste à l'École des beaux-arts, bien Robert Ely est nommé directeur de l'École des beaux-arts de la province de Québec. Des écoles des beaux-arts de la province de Québec. Il est élu président aussi de la Conférence canadienne des arts. Comme vous voyez, il est bien incarné dans le monde culturel. En 1960, il écrit une comédie intitulée Didi et Dada. Bon, puis le 22 février de cette année, il perd un grand ami à lui, qui pourtant est bien différent de lui, c'est Bordua, Paul-Émile Bordua. Il a écrit des choses très intéressantes sur Bordua, et particulièrement dans L'abandon à la laideur n'est qu'une forme du refus de vivre. Ou plutôt, c'est dans un autre texte, je m'excuse, mais dans ce texte, L'abandon à la laideur n'est qu'une forme du refus de vivre. C'est une conférence qu'il avait donnée à la Chambre de commerce en 1960. Il dit, ce langage de l'art qui exprime ce qui échappe à l'analyse et dépasse la raison, où un sourire a plus d'importance qu'une guerre, une fleur beaucoup plus que la plus puissante machine, place l'homme au centre de l'univers, déliant son âme pour lui permettre d'entendre tous les appels de la vie, lui permettant de posséder le monde comme son corps dont il n'est que le prolongement, et d'accéder à l'intemporel, à un domaine où son âme s'épanouit librement. Il ajoute langage concret, langage de la qualité, langage de la vie. Nous avons besoin de ce langage qu'est l'art, à un moment où la raison, que ses propres analyses semblent affoler, menace de faire éclater le monde. Nous avons besoin des artistes qui doivent chaque jour réinventer le langage de la beauté, pour sauver cette réalité présente qui est la matière même de nos vies. Il termine en disant, au milieu de nous, l'artiste fournit un long et dur travail qu'il nous faudrait apprendre à respecter comme on respecte ni plus ni moins le travail de l'ouvrier, du professionnel, et, excusez mon audace, le travail de l'exécutive, puisqu'il parlait à la Chambre de commerce. Et alors, l'année suivante, en 61, il publie des poèmes dans les Écrits du Canada français, dans le volume 10. Et l'année suivante encore, en 62, le 1er janvier, il devient le premier conseiller culturel de la délégation générale du Québec à Paris. Et c'est à ce moment qu'il écrit un très, très beau texte, « Visite à Saint-Germain-des-Prés ». Il faut que je vous lise ça. C'est une des plus belles choses que j'ai lues dans la littérature québécoise. Visite à Saint-Germain-des-Prés. C'est daté du 7 octobre 62. Il y a quelques jours, j'entre à Saint-Germain-des-Prés, à l'heure du déjeuner. J'avais beaucoup marché, et je ne voulais que m'y reposer. Mais je prenais aussi subitement conscience du vide où me plongeait un travail futile et harassant. J'aurais pu m'arrêter à une terrasse de café, mais j'avais besoin de silence. Comme si le bruit de la rue, la fugace apparition de tant d'êtres ne faisait que rendre plus cruel ce sentiment de vide, d'absence, d'incommunicabilité. Une jeune fille est debout devant l'autel de la Vierge, la tête légèrement inclinée, les yeux ouverts. Elle est immobile, ni ses lèvres ni ses yeux ne bougent. Elle attend, totalement absente d'elle-même, si pleinement consciente de son néant, qu'elle ne peut s'étonner ou se plaindre. Elle y consent pleinement par cet acte d'humilité qui est la seule affirmation de la puissance de l'homme. Je ne suis rien parce que tu es, et tu es tout. Le « tu » a des majuscules. La reconnaissance de la totalité suppose l'anéantissement soi-même, et n'est possible qu'au bout de l'humilité. Il n'y a rien à dire, rien à demander. Reconnaître, c'est adorer. Et elle devient silence. Elle attend à la frontière de l'humain, mais juste au-delà, touchée déjà par la divinité, lumière qui consume tout ce qu'elle touche. Qu'il, encore un « i » avec une majuscule, qu'il se manifeste dans sa divinité et elle s'évanouit comme une ombre. Elle a déjà consenti au néant, parce qu'il est tout, parce que son humilité est capable d'adoration. Tu es présent dans ta toute-puissance. Elle le nomme tout-puissant. Ô pouvoir de la créature de l'amour, son amour est capable de consentir au néant pour qu'il se manifeste totalement. Et cet amour se montre par là, même capable d'absolu, de quelque manière capable de divinité, de quelque manière divine, comme si cette fille avait quelque part à la divinité, comme si elle était fille de Dieu. Et si Dieu, mystérieusement, était capable d'humanité, comme s'il pouvait avoir part à l'humanité, comme s'il s'était fait homme. Oh, il est temps, il faut partir. Elle reprend son sac et se dirige vers la porte. Et rien ne la distingue des hommes et des femmes qu'elle rencontre. Elle a une fois pour toutes traversé la frontière de l'humain, traversé la mort, et dans son humilité, tout est réconcilié. Sa charité accueille tout dans l'exacte justice et l'inoubliable espérance, puisqu'il y a le Christ. Est-elle belle, celle qui manifeste ainsi la grandeur de la destinée humaine? Une jeune fille, comme il y en a tant à Paris, modestement vêtue, comme une serveuse au comptoir des soldes dans un grand magasin, insensible à la fatigue, le regard franc, remarquable seulement par sa simplicité, qui est la vertu la moins remarquable du monde. Je vous ai dit que c'était daté du 7 octobre 1962. Il mourra un peu plus de 10 ans plus tard. C'est tragique, vraiment tragique. Et là, c'est la publication en 64 de deux pièces, Le silence de la ville et La place publique, dans Les écrits du Canada français, au volume 18. Il écrit une pièce, Un inconnu. Et le 13 septembre 64, on présente à la télévision de Radio-Canada L'étrangère, que beaucoup d'entre vous ont dû voir il y a une trentaine d'années. En 1966, il quitte la délégation générale du Québec pour s'occuper à Ottawa du poste de directeur du secrétariat spécial du bilinguisme, organisme rattaché au bureau du premier ministre du Canada et au conseil privé. C'était l'époque où on discutait beaucoup de bilinguisme à travers le Canada, hein, sous Pierre Trudeau. En 67, il fait la préface au catalogue de l'exposition d'art d'Expo 67, la Terre des Hommes. Et puis, il fait une conférence importante à la Galerie nationale à Ottawa sur Bordua. Voilà cette conférence sur Bordua, très importante. Et puis, en 67, il fait des conférences aux universités de Montréal et de Laval sur la littérature canadienne-française contemporaine. En 1968, il est nommé directeur de l'expansion au Musée des beaux-arts de Montréal. Et c'est au cours de cette année qu'on publie, c'est Marc Gagnon qui signe le livre, dans la collection Écrivains canadiens d'aujourd'hui chez Fides, un très très beau livre, intitulé simplement Robert Élie. C'est publié à Montréal et à Paris, par Fides, avec de très belles photos qui rappellent de bien beaux souvenirs. C'est un très beau livre que j'ai lu avec énormément d'intérêt, livre de Marc Gagnon, paru donc en 68. En 70, il est directeur associé du Conseil des arts du Canada à Ottawa. Et en collaboration avec Claude Urtubise et Jean Lemoine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il assure la publication des lettres à ses amis de Saint-Denis-Garneau chez Urtubise HMH à Montréal. Donc, il signe l'avertissement. Puis, en 73, le 19 janvier, c'est tristement le décès. À l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, plutôt. Le 19 janvier, 73. Il avait écrit, presque 2 ans plus tôt, un texte bouleversant sur l'érotisme, daté du 21 mars 1971. Je vous le lis parce qu'il est tout à fait dans les réactions que nous avons aujourd'hui devant l'envahissement de l'érotisme. Érotisme, 2 points. On connaît les dangers de la censure, mais ceux d'une totale licence. hein, ceux d'une totale licence. Les connaît-on, ces dangers-là, là? Alors voilà son texte. Érotisme. On connaît les dangers de la censure, mais ceux d'une totale licence. Ici encore, il n'y a d'issue que du côté de la connaissance. Mais seuls les adultes sont capables d'une telle prise de conscience. S'ils ont l'habitude de la réflexion, ou s'ils ont une forte personnalité, pourront-ils résister au poison? Alors il ouvre les guillemets, puis il cite. « Ouvrez toutes grandes les portes de la cité à tout ce que peut inventer Eros obsédé. Et bientôt, vous constaterez que l'ennui rendra ces images inoffensives. » Bien oui, j'entendais ça souvent, et particulièrement de la bouche du directeur du bureau de la censure, d'autrefois André Guérin, qui me disait souvent ces paroles-là. Malheureusement, Dieu ait son âme, il est décédé subitement dans le Vieux-Montréal, en marchant avec sa nièce, André Guérin. Il croyait ça, lui. « Bientôt, vous constaterez que l'ennui rendra ces images inoffensives. » Mais on les voit partout, ces images, elles nous inondent, elles inondent nos enfants tôt le soir. C'est incroyable. Robert Ely continue son texte en disant « Bel argument des marchands pornographes et des maîtres démagogues. Comme l'alcool, le tabac et toutes les drogues, l'érotisme crée l'habitude. Et ceux qui l'atteignent dès la puberté deviennent à tout jamais incapables d'émerveillement. » Incapables d'émerveillement, oui. Si bien que toutes les sensations n'amènent en eux que l'avidité. C'est tellement impeccable que je le répète. Comme l'alcool, le tabac et toutes les drogues. L'érotisme crée l'habitude, et ceux qui l'atteignent dès la puberté deviennent à tout jamais incapables d'émerveillement, si bien que toutes les sensations n'amènent en eux que l'avidité. Et voici trois belles lignes qui me touchent profondément, car c'est un sentiment qu'on éprouve souvent. Il dit « Regardez défiler dans la ville ces visages durs ou veulent, les lamentables bourreaux et victimes des froides divagations de Sade, qui ont perdu jusqu'au souvenir de l'amour, et même de l'humble don de l'accueil fraternel ou de l'abandon à la beauté du monde. » Retrouvez la source, mais la source de notre espérance ne peut être que l'amour. Et dans notre vie, d'où est venu l'amour, sinon de nos compagnons de route, parents, amis, compagnes, enfants? Cherchons plus avant et identifions ces sources d'amour. Et notre communauté chrétienne perdra son âme si elle n'apprend pas à les accueillir au moins à l'égal des sermonneurs. Tant de beaux textes oubliés, tant de beaux textes oubliés. En voici un autre, et c'est peut-être la plus belle prière écrite par un Québécois, à mon avis. Je n'ai jamais lu une aussi belle prière écrite ici. Elle date de 1969. Elle est toute brève, mais elle est d'une profondeur, et d'une grande richesse, et d'une telle foi au Christ qu'elle commence par ces paroles « Mon Seigneur et mon Dieu », qui sont les paroles de saint Thomas, l'apôtre, quand il voit les plaies du Christ ressuscité. Mon Seigneur et mon Dieu, ne permettez pas que l'on vous couvre de ridicule. Ayez pitié de ma faiblesse. Vous savez qu'on a voulu vous ravir à mon adoration. Ne vous éloignez pas. Même si je n'ai pas su vous aimer dans toutes les pauvretés. Vous le savez, pendant mon absence, on vous avait donné l'allure d'un gendarme très moyen qui avait, pour nos faiblesses, un intérêt suspect. Mais aujourd'hui, on vous présente à mes enfants comme un symbole, une idée, une hypothèse. Seigneur, je vous cherche sur les routes de Jérusalem. Entre des milliers, derrière les silencieux, les inquiets, les naïfs, ceux que la haine souriante ou criante surprend à tout coup. Vous ne valez même plus 30 deniers. Vos spécialistes, parlent sans doute des théologiens, il n'est pas tendre, Vos spécialistes ne savent plus que faire de vous. Oh, le Père, ou le Fils, ou l'Esprit. Et votre amour devient une idée. Une petite idée pour maintenir en marche la machine à penser qui n'est plus qu'une horreur de réalité. Vous ne valez vraiment rien. Vous ne pourriez même pas gagner votre pain dans le monde de l'abondance. Oh, vous, le bien infini, la joie et la gloire infinie, l'amour gémissant comme une bête avec son Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je traduis de l'araméen. Et Robert Eli conclut. Vous n'êtes plus qu'une image horrible, Sacré-Cœur navré. C'est une allusion au statut du Sacré-Cœur où le Sacré-Cœur a un peu trop de blue shadow, il est trop mièvre, mais il y a de très beaux Sacré-Cœurs. Vous n'êtes plus qu'une image horrible, Sacré-Cœur navré. Enfant bouclé, vous n'êtes plus que cette pauvre présence chez les ignorants et les va-nu-pieds. Seigneur, voici la fin de la route de Béthanie. Et pour vous accueillir, il doit bien y avoir le cœur d'un pauvre, redevenant Jean, Paul ou Pierre pour vaincre l'absence. Bien oui, quelle beauté, c'est quelle belle conclusion, je la répète, hein, Seigneur Jésus, Seigneur, voici la fin de la route de Béthanie. Hein? Et pour vous accueillir, il doit bien y avoir le cœur d'un pauvre, redevenant Jean, ou Pierre, hein? Ou Paul, pour vaincre l'absence. Il souffrait beaucoup de cette absence autour de Jésus, d'une absence de gens qui l'aimaient vraiment. Ça le faisait souffrir terriblement. Jean Etiblet, qui est décédé récemment, a écrit sur lui toutes sortes de textes, les écrits du Canada français dans Le Devoir en 61, puis rencontre avec Robert Ely en 62, puis il avait fait une analyse aussi du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Marc Gagnon sur Robert Ely, il avait publié ça en 69, toujours dans Le Devoir, et dans Le Devoir sur Robert Ely et Paul Toupin, un autre article en 74. Mais j'ai celui qu'il avait écrit en 79, au moment de l'apparition de cette œuvre immense, les œuvres de Robert Ely chez Urtubige, HMH, dont je vous ai parlé au début, cet ouvrage relié, admirable. Il disait « L'homme qui s'attaquera un jour à la psychanalyse historique et culturelle des Québécois aura fort à faire. Je ne connais aucun pays où soit poussé aussi loin le culte des vivants. » Et là, il s'attaque au manque de souvenirs qu'on a de Robert Ely, mort 6 ans plus tôt, presque 7 ans plus tôt. Il dit à un moment donné « À peine un homme a-t-il franchi le Styx ?» On l'oublie, il n'est plus rien. C'est une allusion à la mythologie grecque, où on croyait que pour aller dans l'au-delà, on franchissait un fleuve qui s'appelait le Styx, je le dis pour quelques personnes. Et il y avait un dénommé Charon, oui, oui, Charon, comme les Charons au Québec, là, qui était le batelier qui amenait les âmes de l'autre côté. Donc, à peine un homme a-t-il franchi le Styx, on l'oublie, il n'est plus rien. Et Jean Etiblet dit plus loin, « Je songeais à la futilité de toute carrière dans un pareil contexte, en lisant des œuvres de Robert Ely, sa famille, des amis, parmi lesquels, au premier rang, se situe M. Paul Beaulieu, ont cru de leur devoir de faire paraître les écrits les plus révélateurs de Robert Ely, ceux du moins qui ont quelque chance d'assurer la durée de son souvenir. » C'est là un fort volume, fait de romans, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'articles, de pensées, de réflexions sur l'art et la vie. Une âme, un esprit, une lumière. Un homme essentiellement pur comme était Robert Ely. Cette pureté même me le rendait insolite. Il semblait ne reconnaître chez les autres que le bien. Plus loin, il écrit, Jean Etiblet, Robert Ely avait le sourire charitable. Il avait aussi ce regard traqué d'une indéfinissable tristesse, le regard du voyageur. Vous savez qu'un vrai croyant est un voyageur. Va, va, va. Comme disait Dieu à Abraham, comme il dit à tous les chrétiens, à tous les croyants, va, va, avance. Et Jean Etiblet ajoute, mais quel voyageur! Son œuvre cherche à nous montrer le cheminement de sa pensée. Elle est intimement liée à l'orientation de sa vie et repose sur l'idée de foi, celle de liberté, celle enfin d'amour assumé. Robert Ely avait appris à se donner et à s'oublier lui-même à l'ombre du Père Doncoeur. Le Père Doncoeur, à l'époque, avait eu une énorme influence sur les jeunes intellectuels du Québec et particulièrement sur Robert Ely. Le Père Paul Doncoeur, un jésuite. Je me souviens de lui, on en parlait beaucoup. Il y a des hommes, ajoute Jean Etiblet, dans notre histoire dont on ne parle jamais, et qui ont joué au Québec un rôle plus important que celui de nombre de nos hommes politiques. Le Père Paul Doncoeur est de ceux-là. Il était jésuite, animateur de jeunes, à sa façon philosophe, éducateur, prophète de la vie future dans un univers férocement matérialiste. Les hommes de la génération de Robert Ely subirent en profondeur son influence. Il leur apprit la générosité. Les années qui précédèrent la guerre de 1940 préparèrent la transformation de notre nation. La crise économique, pour la première fois dans notre histoire, permit aux fils de famille canadiens-français de prendre conscience de leur responsabilité sociale. Il y avait donc des pauvres. Robert Ely est le produit de cette découverte. Comme je vous ai lu ce texte sur les ouvriers, le Christ et les ouvriers tout à l'heure. Robert Ely est le produit de cette découverte. Sa nature le portait vers l'analyse psychologique. Je crois, ajoute Jean Etiblet, je crois que l'expérience des années de crise, dans cette âme torturée, n'a jamais disparu. Il avait appris à connaître et à juger notre société. Ses paroles sur l'indifférence de notre milieu à l'endroit de tout ce qui relève de l'intelligence et du cœur ne laissent pas d'être sévères. Robert Ely fut, comme beaucoup d'écrivains qui n'ont pas la fibre conquérante, un fonctionnaire. Il était directeur ou directeur général adjoint ou conservateur ou attaché culturel, rien de commun. Rien non plus de transcendantal. Je ne sais pourquoi, je souffre avec lui, notre société est mal faite. Robert Ely, termine Jean Etiblet dans ses carnets, ses fameux carnets. Robert Ely appartenait à cette race d'hommes qui, accédant au pouvoir, ne peuvent l'assumer en son entier. Il était trop noble. Il avait l'âme trop complexe. Il était trop bon. Il était trop bon. Robert Ely a aussi été longuement analysé, en 79 encore, par Robert Mélenchon dans Le Devoir, le 10 novembre, le même jour que l'article de Jean Etiblet. L'œuvre de Robert Ely, Un itinéraire intérieur, par Robert Mélenchon, c'est la présentation de ce livre des œuvres. Et il termine en disant, c'est cette œuvre qui compte finalement, et elle seule. Elle n'a pas l'intensité ni la profondeur de celle de Saint-Denis Garneau, ni la chaleur généreuse de celle de Gabriel Roy, ni la vie de celle d'Yves Thériault. Elle n'a pas non plus, comme celle de Grandbois, d'Alain Grandbois, pris valeur d'exemple pour ses cadets. Mais, et voilà, elle constitue un témoignage essentiel sur l'aventure intellectuelle de toute une génération qui s'était rassemblée autour de la relève, la revue dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui forme notre première génération à proprement parler moderne. Elle vaut par le souci d'authenticité qui l'anime, et par l'exemple, l'un des premiers ici d'un engagement complet dans l'écriture. Et voilà comment un grand laïc catholique, Robert Ely, a été un témoin du Christ, un témoin des vraies valeurs, un témoin de la vraie littérature, un témoin de la vraie vie, un témoin des vraies grandeurs qui devraient nourrir notre jeunesse si on veut qu'elle survive.